in the morning as we lock the boss in the lavatory, taking the charge of the factory. We work autonomously. We used to bend and slave for making everything for your greed, but now we lend our labour, making only the goods that you need. Oh, singing a song in the morning as we lock the boss in the lavatory, taking the charge of the factory. We work autonomously. Why waste your years just working and working and working and working and selling yourself for a wage? Take back control of working and building and living and set an example to the age. Oh, singing a song in the morning as we lock the boss in the lavatory, taking the charge of the factory. We work autonomously. We used to bend and slave for making everything for your greed, but now we lend our labour, making only the goods that you need. Oh, singing a song in the morning as we lock the boss in the lavatory, taking the charge of the factory. We work autonomously.
Radio Libertaire, c'est Jeudi Noir qui commence avec donc Jean-Mathias devant moi qui a lu le livre, José en tribune qui a lu le livre aussi, et moi qui n'ai pas lu le livre. Voilà, j'ai honte. Et ce soir, donc alors là, vous venez d'entendre un morceau de The Apostles, c'est Workers Autonomy, donc c'est un morceau britannique de 1985. Pour une fois, José n'a pas été tapé chez les Américains. Je pense qu'il voulait faire plaisir à Jean-Mathias.
Mais Jean-Mathias apprécie.
Jean-Mathias apprécie, voilà, parce que Jean-Mathias a un côté anglophile qui me semble très très suspect. Il a un tropisme grand-breton. Bon. Et il aime bien les Doc Martens et tout ça. Et vous allez comprendre pourquoi on dit tout ça. C'est parce qu'on va vous parler de l'histoire des équitables pionniers de Rochdale, aux éditions du Commun. Voilà, donc c'est un livre qui va relater, alors là je vous lis la quatrième de couverture, c'est un livre vert, qui relate une des premières expériences coopératives, voilà. Et c'est une coopérative de distribution et de consommation, constituée essentiellement par des prolétaires, qui se demandent comment maîtriser justement la qualité des produits, leur provenance, leur coût. C'est des choses qui se font encore aujourd'hui. Vous avez différentes coopératives comme ça, distribution de consommation dans les villes. Il y en a à Saint-Denis, par exemple, qui a un petit... des AMAP, tout ça. Voilà, et donc, après, c'est évidemment, c'est pas des trucs super révolutionnaires, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont pas là pour jeter à bas le capitalisme, ils sont là pour essayer de vivre à peu près correctement, je dirais, dans les interstices du capitalisme. Et donc j'imagine que pour des marxistes, et des révolutionnaires professionnels, c'est un petit peu d'une Robinsonade, hein. C'est-à-dire une façon de s'imaginer qu'on peut vivre tranquille dans son îlot. Mais bon, si on peut pas faire la révolution parce qu'on a piscine ou d'autres trucs, ça peut être pas mal de vivre dans les interstices. Alors je sais pas ce que Jean-Mathias a à en dire, à part que c'est un livre vert.
Ouais, c'est un livre vert, ça c'est vrai. Enfin, la couverture est verte. Après, c'est un document en fait. C'est un document historique assez connu dans l'histoire du mouvement coopératif. Alors, je signale quand même pour les auditeurs que c'est un livre qui fait écho à, enfin, c'est une question qui fait écho à une émission qu'on avait déjà faite ici.
Il y a des années de ça.
Alors, il y a bien longtemps. avec Jean-Michel Drapry, du Conservatoire National des Arts et Métiers, qui est un des spécialistes de l'histoire du mouvement coopératif et qui enseigne aussi le droit des sociétés coopératives, hein, ce qu'on appelle les SCOP aujourd'hui. Je me souviens d'une émission tout à fait passionnante, hein, qu'on avait enregistrée là-bas d'ailleurs aux Arts et Métiers. Et qui édite une revue aussi régulièrement, la revue de la RECMA, où il est fait justement part des différentes expérimentations coopératives à travers le monde. Alors le document là qui a été réédité par les éditions du Commun en 2017, hein, c'est pas de la semaine dernière. C'est un document qui raconte le récit d'un témoin de cette expérience des équitables pionniers de Rochdale. Alors Rochdale, c'est une petite ville dans la banlieue de Manchester, et l'expérience date elle-même de 1843. Vous voyez, donc on est vraiment dans la première moitié du 19e. Et la traduction est de Marie Moret, elle date elle-même de 1890, c'est celle qui est reprise là par les éditions du Commun. Et Marie Moret, c'est qui ? C'est un personnage intéressant parce qu'en fait, c'était à la fois la secrétaire et la compagne du fondateur de la coopérative Godin. Des poêles et des cheminées Godin, qui ont pendant été très longtemps une des sociétés coopératives, hein, justement, alors là, de production pour le coup, les plus florissantes en France. Et donc, à l'époque, effectivement, là, on est à la fin du 19e, lorsque la traduction paraît en France, l'expérience des pionniers de Rochdale est vraiment emblématique, si vous voulez, du mouvement coopératif et du mouvement mutualiste également, parce que là on est sur
peut-être préciser un petit peu toutes ces notions.
Je vais préciser tout ça, mais disons que ce sont des formes d'organisation qui sont en fait imaginées. Alors, tu as parlé de prolétaires tout à l'heure. Là, en l'occurrence, ce sont des artisans tisserands à l'origine. Donc, on est en 1843, c'est-à-dire qu'on est en Angleterre, la révolution industrielle est déjà plus ou moins en place.
Okay. Sachant que la distinction à ce moment-là entre les artisans et les prolétaires
n'est pas claire.
Et pas forcément très claire. Parce qu'ils peuvent passer d'un statut à l'autre. Voilà. C'est-à-dire, un artisan, c'est quelqu'un qui possède un état et qui est censé avoir un savoir-faire qui lui permet de se distinguer du prolétaire qui n'a que sa force de travail à vendre. Ouais. Malgré tout, étant donné l'état du marché du travail et l'industrialisation galopante, vous avez pas mal d'artisans qui tombent dans l'état de prolétaire. Donc bon, c'est complexe.
Et alors, en fait, ce qui existe à l'époque, surtout que ce n'est pas des artisans indépendants, c'est des artisans qui travaillent dans ce qu'on appelle à l'époque les manufactures, qui sont en fait les ancêtres des usines, hein, des lieux où justement les artisans ont déjà perdu en fait leur autonomie de travail, que ce soit leur carnet de commandes, le prix à la vente, la manière d'effectuer leur travail. Donc ils travaillent pour des employeurs, le rythme, etc.
C'est du travail qui est déjà taylorisé en réalité, même si Taylor n'est pas encore né. Ça, vous pouvez faire ça dans la manufacture des Gobelins. Il y a une analyse de Foucault dans Chevalier punir, de la façon dont ça fonctionne dans ces trucs-là.
Et en 1843, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ces tisserands, qui travaillent donc en manufacture pour des employeurs, qui sont salariés donc, lancent une grève en fait, pour augmenter leur salaire, puisqu'ils ils vivent dans des conditions qui sont déplorables. Et en fait, la grève échoue. La grève échoue parce que en fait, il n'y a pas suffisamment d'unité entre les différentes manufactures qui sont en concurrence. Et même si les tisserands marquent des points, il y a même certains employeurs qui s'engagent en fait à augmenter les salaires à condition que les autres concurrents le fassent. Et le problème, c'est qu'évidemment la chaîne ne se met pas en place. Et ce qui est intéressant, c'est cette expérience de Rochdale démarre sur un échec, de lutte ouvrière, pourrait-on dire, sur l'échec d'une grève. Et les tisserands donc de Rochdale vont se retrouver perdants. Et ils vont imaginer un système de vente de leurs produits courants, hein, que ce soit la nourriture, les vêtements, les tissus, etc. Ils vont imaginer un magasin coopératif qui leur permettrait en fait deux choses. D'une part, d'avoir accès à des marchandises de qualité, c'est ce que tu as dit. D'une part, d'avoir accès à des marchandises dont ils contrôlent les prix. Et troisièmement, et ça c'est très important, et c'est en cela qu'effectivement c'est un mouvement qui n'est pas révolutionnaire, mais qui n'est même pas anticapitaliste, qui est un mouvement capitaliste, qui se met en place dès les premières, dès premières années du capitalisme industriel, ils veulent faire de l'argent. Ils veulent faire de l'argent avec ce magasin-là. Et le principe c'est quoi ? Le principe c'est qu'ils se retrouvent complètement ruinés après leur mouvement de grève. Ils se retrouvent ensemble, surendettés, les uns et les autres. Et en fait, ils se disent, bah, écoutez, c'est pas possible. Il faut qu'on trouve le moyen, en fait, de subvenir à nos besoins dignement, de ne pas exploiter le travail des autres, de quelqu'un d'autre. Et si possible, qu'on sorte de cette situation de dépendance et d'endettement financier dans laquelle on se trouve en permanence. Ils n'ont pas un radis. Là, le début du texte est assez marrant là-dessus, parce que c'est un récit, alors ça se lit très très bien, hein. c'est vraiment très clair, très simple, très factuel, et très pédagogique, je trouve, hein, sur la manière, faussement naïf, c'est-à-dire que ça enchaîne comme ça les circonstances, mais toutes les difficultés sont examinées, sur toute la durée de l'expérience, hein, ça a duré pendant plusieurs décennies, et c'est un succès énorme en réalité. Donc ils se retrouvent comme ça au départ, ils sont 28, hein, c'est les 28 fondateurs, pas un centime en poche, avec des dettes partout, et en fait ils s'engagent mutuellement les uns les autres à mettre au pot pour donner un capital de départ et à cotiser. En fait, à cotiser collectivement pour petit à petit être en mesure de louer un local, d'acheter des produits et de les vendre. Alors, évidemment, avec derrière un souci d'enrichissement. Sauf qu'ils imaginent en fait un système de vente, un système de fonctionnement qui n'est pas celui du capitalisme classique, ni même et surtout pas du capitalisme libéral, dans lequel chaque individu finalement ne cherche que son intérêt. Alors, c'est quoi l'originalité de cela ? Déjà, deux règles générales qui sont posées dès cette petite réunion dans une salle obscure d'un après-midi de novembre pluvieux et déprimé de Rochdel. Le principe, c'est que en fait, chaque sociétaire de la coopérative aura une voix, un homme, une voix sur les décisions stratégiques, sur les décisions qui concernent la vie du magasin, quel que soit le capital qu'il apporte. Ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous soyez un gros actionnaire ou un petit actionnaire, vous avez une voix. Et le deuxième principe...
C'est pas du tout censitaire.
Et le deuxième principe qui est fondamental, c'est qu'en fait, les bénéfices du magasin, quand il y en a, ne sont pas versés en proportion du nombre d'actions dans le magasin.
En proportion de la consommation.
Mais en proportion du nombre d'achats qui a été fait. En proportion du nombre d'achats qui a été fait. Alors là, il y a quelque chose d'assez génial. En fait, il faut quand même imaginer l'idée, en fait, d'où on part. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous allez acheter dans le magasin, et plus le magasin va vous reverser de parts de bénéfices réalisés. Hein? Alors, ça veut dire qu'on est absolument pas dans une logique d'accumulation du capital pour l'accumulation du capital. C'est-à-dire qu'on est dans une logique où on est dans un fonctionnement capitaliste, hein, parce qu'ils vont emprunter, parce qu'ils vont vendre, parce qu'ils vont tirer du bénéfice. Hein. En même temps, il n'y a pas de rémunération. C'est pas le capital, les capitalistes investisseurs qui décident de la stratégie ni de la hauteur des dividendes. Hein. C'est le collectif, puisqu'un homme a une voix. Donc on est dans une logique capitaliste, mais d'une certaine manière, il s'agit de valoriser l'activité coopérative en tant que telle. Non pas le bénéfice des plus riches et des investisseurs les plus fortunés, mais de faire en sorte que le système capitaliste valorise l'activité coopérative en tant que telle, donc c'est-à-dire l'achat coopératif, hein, le fait de participer au fonctionnement du magasin, hein, et de l'écoulement de la marchandise. Alors, on peut rajouter deux autres principes en fait qui datent de là. C'est le principe que tout le monde peut venir acheter dans le magasin et qu'il n'y a pas d'obligation pour les membres de la coopérative d'acheter dans le magasin. C'est-à-dire qu'il y a une liberté du consommateur. Il y a une liberté du consommateur qui est fondamentale parce que c'est l'idée que, ces tisserands, ils sont favorables à la liberté du commerce. Ils veulent pas étrangler, ils veulent pas créer une secte. Ils veulent que tout le monde puisse effectivement participer aux bénéfices de l'entreprise. Ils veulent pas obliger les gens qui trouveraient mieux ailleurs ou qui auraient envie d'aller acheter ailleurs à rendre leur part. Ou à se faire rembourser leur part. Donc, en fait, ils acceptent ce principe-là. Hein. Et c'est toujours quelque chose qui est fondamental aujourd'hui dans le mouvement coopératif. Et la répartition des bénéfices entre les différents membres est distribuée aussi entre les vendeurs,
C'est-à-dire que pour toucher une part des bénéfices du magasin, il n'est pas nécessaire d'être actionnaire.
Tu peux être soit actionnaire, soit vendeur.
D'accord, c'est ça. Mais si tu n'es que consommateur, par exemple, tu n'as pas droit, tu ne touches à aucun bénéfice.
Tu touches rien du tout,
bien sûr.
C'est les membres de la coopérative. Alors, les vendeurs.
C'est les membres de la coopérative qui, ou les vendeurs qui peuvent toucher une part des bénéfices, d'accord ?
Dans le cas des vendeurs, c'est différent des clients. Hein, les vendeurs, seuls les vendeurs touchent proportionnellement à leur rapport de départ.
D'accord.
C'est-à-dire que les vendeurs sont eux-mêmes, si vous voulez,
salariés,
mais en fait, ils sont eux-mêmes actionnaires.
Oui,
ils sont eux-mêmes actionnaires.
Ils doivent être actionnaires, les vendeurs.
Ils doivent être actionnaires. Ils doivent être actionnaires et eux sont payés au prorata du capital qu'ils ont investi.
D'accord. Et enfin, ils touchent une part du bénéfice.
Oui, ils touchent des dividendes au prorata du capital
ils
investi.
Ils ont un salaire par ailleurs.
Mais c'est un encouragement au travail, en fait.
Okay.
Et à l'implication au travail. C'est-à-dire qu'effectivement, on trouve une manière, en fait, de rémunérer, en fait, à la fois le capital et le travail, sans que...
Et alors là, c'est quoi la différence avec la troisième voie de De Gaulle?
La troisième voie de De Gaulle, c'est l'intéressement, hein, l'intéressement des salariés aux bénéfices. Si tu veux, sur le papier, effectivement, tu as des ressemblances, sauf que De Gaulle a jamais pensé à rémunérer les consommateurs au prorata de leurs achats. Sauf qu'il a jamais pensé à établir une démocratie du travail dans laquelle les sociétaires seraient réunis régulièrement pour décider de l'avenir de la société,
de la politique
d'investissement, du montant des... Voilà. Et donc
quoi De Gaulle n'était pas un démocrate.
On a une espèce de forme qui est quand même assez. Alors après, on peut évidemment discuter. On peut discuter de plein de choses. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un cadre qui est capitaliste, pas vraiment dans les interstices du capitalisme. En fait, il s'agit d'une forme concurrente de capitalisme. C'est un capitalisme coopératif.
D'accord.
Donc c'est pas on crée des espaces dans lesquels on va fonctionner. Non, c'est un capitalisme coopératif où on pourrait dire, je sais pas moi, une espèce de socialisme dans le cadre d'une économie de marché. En fait, il y a un peu des deux. Alors. Il faut évidemment, on pourrait discuter de tas de limites, hein, c'est-à-dire qu'évidemment, et d'ailleurs, c'est ce que fait le récit, hein, il présente les difficultés, les obstacles qui vont être rencontrés, c'est-à-dire que, ce mouvement-là, il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans, c'est qu'en fait, on a affaire à des tisserands qui sont en fait des travailleurs qui ne cherchent pas à s'enrichir plus que nécessaire, mais qui pensent qu'effectivement, ils ne sont pas partisans d'une révolution communiste libertaire, hein, c'est pas ça, en fait. Ils respectent la banque, ils respectent la finance, ils font des emprunts, ils remboursent leurs emprunts, ils remboursent les intérêts de leurs emprunts. Ils pensent que c'est normal. Mais simplement, ils essayent d'imaginer un dispositif dans lequel, en fait, chacun pourrait avoir sa place. Chacun pourrait avoir sa place, quelles que soient ses préférences, ses besoins de consommation, son capital à apporter, son rapport au travail. Voilà, un système dans lequel chacun a sa place, un système dans lequel le capital ne baisse pas le travail, en fait, au fond. Hein? Donc un système dans lequel effectivement l'énergie qui est libérée en quelque sorte comme on dit par le souci de s'enrichir, en fait, serait en fait mise au service de l'activité et d'une consommation correcte et accessible à tous. Ça, c'est pour la dimension de consommation de la coopérative. Et alors, contrairement à ce que tu disais au début, en fait, il y a assez rapidement, une fois, en fait, ça marche du feu de Dieu. Ça va marcher du feu de Dieu. Ça part de rien. Ça part de rien du tout. Hein. Ça part d'un capital mais miséreux dans une fin fond d'arrière boutique d'une rue sordide. Mais ils tiennent. Les gars, ils vont tenir envers et contre tout pendant des années. Et en fait, ils vont servir de modèle. Ils vont passer des obstacles. En fait, ils sont attaqués sur leur gauche par en fait les révolutionnaires plus agressifs, ils sont attaqués par les religieux, ils sont attaqués par les ligues anti-alcooliques, attaqués, qui pensent que évidemment la lutte contre l'alcoolisme doit primer avant tout et que le bonheur de l'ouvrier passera d'abord par l'abstinence
et par la sobriété, oui.
Et ils sont évidemment attaqués très rapidement par les propriétaires de capitaux, par les banques, par les politiques, la plupart des politiques, par les économistes. Et ils vont tenir leur barque, ils vont tenir leur cap pendant des décennies, ce qui va les amener non seulement à réussir, si tu veux, sur la dimension coopérative de consommation, c'est-à-dire que le magasin va dégager des bénéfices, il va rapidement fédérer des milliers de sociétaires, alors qu'ils partent à 28, hein, des milliers, voire des dizaines de milliers. lié, et ils vont se lancer aussi dans la production de choses, dans la production et dans la, la coopérative de vente en gros. Parce qu'à partir du moment, ben, en fait, ils ont l'ambition, si tu veux, de maîtriser l'ensemble de la chaîne de production. D'accord. C'est-à-dire la production, la vente en gros et la distribution. La distribution et la conso. Alors, avec des succès contrastés. Sur à Rochdale, par exemple, la dimension, je le dis rapidement, on reviendra après, hein, mais c'est à Rochdale, par exemple, la coopérative de production va échouer parce qu'en fait, ils font un appel d'offres, en fait, hein, au départ pour récupérer des capitaux. Et en fait, ils vont sur les coopérateurs, justement, militants, vont se retrouver en minorité par rapport aux actionnaires qui souhaitent, en fait, flinguer le truc et qui souhaitent avoir une société par action classique. Et en fait, au moment du vote de l'Assemblée, ils sont minoritaires, les militants coopératifs, et donc, en fait, ils se font bananer, ce qui fait que, en fait, le principe de coopération n'est que formel, et qu'en réalité, eh ben, les bénéfices vont être reversés proportionnellement au capital investi. Mmh. Donc, ça marche pas. Ça marche pas à Rochdale, mais ça marche ailleurs. Hein, ça a marché dans d'autres endroits. Et par contre, pour la vente en gros, alors là, gros carton, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont arriver à monter en fait une espèce de coopérative d'achat, hein, qui va ensuite effectivement, vendre de la marchandise en gros. Alors non seulement effectivement aux magasins coopératifs des pionniers, mais aussi aux autres magasins de la ville. Mais aussi aux autres magasins de la ville, malgré, là encore, les pressions et les difficultés qu'ils vont rencontrer, par exemple de la part du propriétaire de leurs locaux, qui, voyant que ça marche du feu de Dieu, se dit qu'après tout, lui, il pourrait bien récupérer une part des bénéfices et qu'il va les étrangler avec le loyer. Et malgré aussi la pression des commerçants classiques, je dirais, ou non coopératifs, qui, eux, soupçonnent en permanence le magasin de vente en gros de les arnaquer en se faisant des bénéfices sur leur dos. Et en fait, ils vont garder en fait un cap, si c'est assez remarquable. Ils restent inflexibles dans leur truc, dans leur projet. Ils appliquent les trucs à la lettre. Si ça foire, et ben ça foire. Ils font des déclarations en expliquant qu'ils regrettent que ça foire, qu'ils expliquent pourquoi ça a foiré. Mais ils vont maintenir comme ça leur barque. Et en fait, c'est une expérience. Alors, c'est pas la seule. Hein. Il y en a beaucoup. Alors, souvent, on dit qu'effectivement, c'est l'expérience un peu fondatrice, si tu veux, du mouvement coopératif. Tu l'as dit, le mouvement coopératif aujourd'hui, c'est partout dans le monde, et c'est un mouvement qui est énorme. Alors, avec des formes d'ailleurs extrêmement variées, hein, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale. Dans l'économie sociale, vous allez trouver aussi bien les AMAP de quartier que le Crédit Mutuel, la MAIF, etc. Hein, donc, qui ont un fonctionnement capitalistique, hein, puisque dans la mesure où ils souscrivent aussi à des emprunts sur les marchés financiers, ils sont obligés de se plier à certaines règles. Donc, parfois, c'est une coopération qui, effectivement, reste assez formelle et assez théorique, on va dire. Hein. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais il me semble que ce qui est assez fascinant dans cette expérience-là, qui n'est pas révolutionnaire, hein, j'ai bien expliqué pourquoi, mais qui est très concrète et qui fonctionne, en tout cas assez largement, hein, sur pas mal de choses, c'est cette espèce de foi, si tu veux, dans les vertus de la coopération et dans la capacité à agir de manière concrète à partir de que dalle, hein, mais pour peu, effectivement, qu'on croit à ce fonctionnement-là et qu'on ait effectivement le souci, hein, d'avoir à la fois une production et une consommation qui soit juste. J'ajoute juste, avant qu'on fasse une première pause, que, évidemment, ça suppose aussi un mouvement et une implication dans l'éducation des sociétaires. Et ça va passer aussi par la mise en place de bibliothèques. Pas une bibliothèque, au départ il y en a une, ils ont 40 bouquins qui se battent en duel, puis en fait après ça va être des bibliothèques gigantesques, mais aussi des cours, des conférences, des séances de formation. Il s'agit en fait de donner la possibilité, il n'y a rien d'imposé, hein, mais de donner la possibilité aux coopérateurs de se former justement pour prouver effectivement à la concurrence et aux opposants que c'est un système qui est viable, et pour donner aussi aux coopérateurs les outils théoriques ou intellectuels pour répondre aux critiques. Voilà. Donc, une présentation un petit peu générale, on va peut-être faire une première pause.
On va faire une première pause, d'autant que José a passé un temps fou à essayer de trouver des musiques qui puissent s'accorder au thème. Donc voilà, il y a laissé 3/10, alors déjà qu'il n'y en avait plus beaucoup dans les yeux, on va faire quand même honneur à la musique.
Slap 'em up. They're coming.
Bonsoir, vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et donc, voilà, vous venez d'entendre Suburban Loans, Pioneers, c'était le premier morceau des Américains de 1981. Et ensuite, c'était Tissimatic, L'Union fait la force. Alors, José nous disait que c'était le premier groupe d'Arnaud, c'est ça? Et alors, pour contredire un auditeur facétieux, nous ne sommes pas les fameux anarcho-capitalistoscopés. Et on ne fait
moi,
pas.
En fait, je ne sais pas, je ne connaissais pas le.
Ouais, moi non plus.
Peut-être, en fait.
Je ne connaissais pas, quoi. Et nous ne faisons pas non plus l'apologie de certaines officines mutualistes qui auraient.
Fustelle militante.
Fustelle militante. Voilà, on raconte bon, une petite histoire qui date des années du 19e siècle.
1843.
Et donc, c'est. Voilà, ce soir, donc, on vous parle de l'histoire des équitables pionniers de Rochdale ou de Rochdale aux éditions du Commun. Voilà, ils ont un site internet que vous pouvez aussi aller voir. Et donc, voilà, c'est un témoignage, un document de cette époque qui décrit...
Très agréable à lire, très clair, très... Voilà, faussement naïf, encore une fois, et ouais, très, très, très chouette. D'ailleurs, ça fait une centaine de pages, hein, mais c'est très, très édifiant. Et bah, donc, oui, on disait sur la première partie de l'émission, en fait, que on a essayé d'expliquer un petit peu quels étaient les principes, en fait, du mouvement coopératif qui se mettent en place dès le départ, hein, donc dès 1843, dans cette arrière-boutique là, d'une rue humide de Rochdale, dans la banlieue de Manchester. Et comment, au fond, on se retrouve avec des ouvriers qui travaillent pour des employeurs, pour des bourgeois qui possèdent les manufactures, et comment ils vont essayer d'imaginer un système dans lequel, en fait, on a un capitalisme, je dirais, sans bourgeois ni prolétaires, puisque d'une certaine manière, on a, alors, à condition évidemment qu'on l'étende à la production, ce qu'à Rochdale, ils n'ont pas réussi à faire, pas tant de leurs faits que des circonstances. Hein. Mais c'est une manière d'envisager l'économie, on va dire, dans lesquelles les actionnaires d'un magasin sont rémunérés non pas en fonction du capital qu'ils investissent, mais en fonction des bénéfices de leurs achats. Et alors, là-dessus, il y a un petit point marrant, il y a plein de comptes rendus qui se lisent bien d'ailleurs, hein, des AG fondatrices et tout ça. Et ils expliquent par exemple qu'au départ, justement, la question de la répartition des dividendes, au départ, en fait, ils partent de rien. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas s'ils vont être capables d'acheter la moindre paire de chaussettes, le moindre sac de patates.
Ouais, donc, répartir des dividendes à partir de là, c'est compliqué.
Mais ils se fixent, à la fin de dès la fin de 45, en fait, voilà, à la fin de 45, ils sont. Alors, au début, ils sont 28, 2 ans plus tard, ils sont 80, donc c'est pas fulgurant au départ, hein, ils ont un capital de 4 540 francs 30 centimes, nous dit-on, et en fait, se pose la question de la répartition des bénéfices, et pour bien vous donner l'espèce de. Je trouve de lucidité, en fait, qu'il y a dans la manière d'appliquer leurs principes. Après, on peut discuter, évidemment, sur les principes, mais dans la manière, l'espèce de, voilà, de lucidité, d'intelligence qu'ils ont eu, je trouve, dans la manière de mettre ça en application. Il y a un débat sur la répartition des dividendes qui est formulé comme ça, on est page 32, là. Donc, il disait, il y a deux principes qui sont débattus. Le premier consistait en ceci: payer aux actionnaires 5% d'intérêt et vendre les denrées aux membres de la coopérative sans autre profit, ce qui humilie les marchandises presque au prix coûtant pour chaque acheteur, et donner ainsi aux consommateurs sous une autre forme le même avantage qu'aujourd'hui acheté au store. Au store, c'est-à-dire dans le magasin. L'autre plan était de vendre les denrées au prix en cours partout et d'épargner au bénéfice de l'acheteur les dividendes qui en résulteraient. Vous voyez l'alternative, c'est-à-dire que dans un premier cas, on choisit de faire, en fait, de limiter les revenus du capital de manière assez drastique, en disant, quels que soient les bénéfices, il n'y aura que 5% qui arrivent, en fait, aux actionnaires, hein, et on baisse au maximum le prix pour que ce soit avantageux pour les consommateurs. Ça, c'est le plan A. Et en fait, ce n'est pas ça le plan qui va être retenu par les membres de la coopérative,
c'est
le plan B. Le plan B, c'est de dire, non, on ne casse pas les prix. On ne casse pas les prix, on les monte pas non plus, bien évidemment, mais on s'ajuste sur les prix du marché. Par contre, nous, ce qu'on va faire, c'est que les bénéfices qu'on fait, on va pas les revendre, on va pas les redistribuer à proportion du capital, on les redistribue aux acheteurs. Moi, je trouve que pour avoir la lucidité de se dire, c'est comme ça que l'affaire peut marcher, et c'est comme ça que le fonctionnement peut perdurer, il y a quelque chose d'assez fascinant. quelque chose d'assez fascinant. Parce que c'est pas un capitalisme éthique, simplement. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre, mais c'est pas un capitalisme auto-limité. C'est pas un capitalisme libéral auto-limité. C'est vraiment une autre forme. Une autre forme.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme de paternalisme du type on aide nos consommateurs à faire des économies?
Ben, c'est le cas, ça serait le cas dans le plan A. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu casses les prix en limitant les revenus.
Tu les aides à dépenser moins dans le premier cas, dans le deuxième cas, tu leur fais faire des économies.
Sauf que ce qui est visé, c'est.
Et tu le reverses plus tard.
Ce qui est visé, c'est le succès de l'activité du magasin.
D'accord.
Et ce succès, il appartient pas aux actionnaires, il appartient d'abord aux consommateurs.
D'accord.
Il est entre les mains du consommateur, qui est libre de venir ou pas, et qui est libre effectivement de participer à l'aventure ou pas, et qui doit avoir intérêt à le faire. C'est une affaire d'intérêt bien compris, mais dans un cadre qui est celui d'un cadre coopératif. Encore une fois, je ne suis pas forcément convaincu sur le bien fondé des principes. Il y a une forme, après, quand ils vont se heurter vraiment à des attaques, ça, je vais en parler un peu après, de la part des bourgeois locaux ou des concurrents locaux, il y a des fragilités, ça c'est évident. C'est une manière de ne pas assumer la lutte des classes aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on change le logiciel d'une certaine manière. On décide de changer le logiciel. Alors évidemment, il y a toutes les limites qui vont avec ce type de démarche-là. Mais un peu plus loin, pour vous donner une idée un peu du ton du récit, qui esquive pas du tout en fait les difficultés et les débats, vous avez un petit chapitre un peu plus loin qui est assez marrant sur les membres de l'opposition. Et alors bizarrement, les membres de l'opposition, ils sont d'abord en interne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'abord les militants politiques sectaires de différentes obédiences. J'ai parlé tout à l'heure des ligues anti-alcooliques qui effectivement militaient. Il y a aussi des mouvements religieux assez égalitaires, assez niveleurs aussi. Ça, c'est une spécificité anglaise. Mais il y a aussi les
niveleurs, c'est plus vieux. Oui, niveleurs, c'est
17e. Niveleurs au sens de partisans des amis d'égalité.
Des égalitaristes forcenés.
Voilà. Et donc, il y a aussi les gauchistes grincheux. Alors, le gauchiste grincheux, je résiste pas au plaisir de vous lire le passage, quand même, c'est un petit peu long, mais ça vaut quand même son pesant. Parce que là, pour le coup, on est en 1845, mais voilà, j'en dis pas plus, je vous lis le.
Je vous lis du gauchiste grincheux.
Ce que moi je lis comme le gauchiste grincheux, c'est que c'est jamais dit, vous allez voir sur le ton. Alors, donc on est page 46, on commence à étudier les membres de l'opposition. Alors, dans les classes ouvrières, comme dans toute autre classe, se rencontrent de ces êtres étranges qui semblent nés sous une mauvaise étoile. Ils emportent partout avec eux l'hostilité, la méfiance, la dissension. Peut-être ne voudraient-ils pas qu'il en fût ainsi, mais ils ne peuvent éviter que cela soit. Leur accent est toujours dur, leur organe vocal est ainsi fait que nul son mélodieux n'en peut sortir. Jamais ils ne témoignent de cordialité ni de satisfaction. Les lignes agitées de leur visage dénotent la divergence de leurs opinions. Leurs lèvres semblent constamment prêtes à émettre le blâme. Et leurs sourcils froncés réclament sans cesse un mode d'action tout autre que celui dont ils sont témoins. Ces êtres sont des espèces de porc-épics sociaux, dont les dards sont constamment dressés. Les fonctions de la vie sont interverties chez eux. Toutes choses leur apparaissent sans dessus-dessous. La route la plus droite leur semble courbée d'une façon désespérante. Ils savent que tout mot a deux sens, et toujours ils prennent l'acception que vous n'aviez pas dans l'esprit. Nul document ne pouvant tout contenir, ils voient invariablement ce que vous avez omis, et ignorent ce que vous affirmez. S'ils se joignent à une société, c'est en apparence pour y apporter leur concours, mais en réalité, pour ne faire rien que leur critique, sans essayer patiemment d'améliorer ce dont ils se plaignent. Au lieu de voir les points forts de la société afin de s'en servir pour la défense mutuelle, ils cherchent les points faibles pour les exposer à l'ennemi commun. Ils font de leur contact avec les autres membres une cause perpétuelle de désagrément, de sorte que leur présence constitue une véritable affliction publique. Chacun a le sentiment qu'il trouverait plus de paix et plus de respect parmi ses opposants déclarés qu'auprès de tels alliés. Les hommes d'un caractère aussi chagrin ne cessent de prédire la ruine des entreprises et d'agir de façon à ce que cette ruine soit inévitable. Alors, ils ne manquent pas de rappeler la clairvoyance dont ils ont fait preuve et vous font sentir que vous leur devez respect et gratitude pour toute l'aide qu'ils vous ont apportée. Alors, bon, voilà, ça vous donne une idée du ton, je trouve. Effectivement, le texte est effectivement comme ça, l'avenant, à la fois très 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 clair, très transparent, et en même temps, il fait pas de cadeau. Voilà, il fait pas de cadeau. Et moi j'aime bien, voilà, faut dire les choses. Alors ça, c'est du point de vue,
c'est clair que le gauchiste grincheux décrit comme ça, c'est une figure incontournable à peu près toutes les AG auxquelles vous pouvez participer. Hein.
Absolument.
Ceux-là, vous les trouverez partout.
Et donc, on salue nos camarades de Lambertiste au passage.
Et qui ne nous écoutent pas, parce qu'ils sont divisés en trois sous-chapelles qui s'entretuent.
Alors, donc, bon, c'est méchant pour les Lambertistes, mais...
Non, c'est mérité.
Alors, donc, après, il y a évidemment, alors ça c'est évidemment les adversaires de première intention, je dirais, c'est-à-dire ceux qui sont rapidement là dans la chronologie. Il y a évidemment plus objectifs, je dirais, comme adversaires, hein. Et c'est ce que les pionniers de Rochedel vont rencontrer, notamment lorsqu'ils vont chercher à élargir leur expérience à la coopérative de production. Alors, j'ai expliqué un peu pourquoi ça avait raté tout à l'heure. La difficulté, elle tient à ce que, donc, au moment où ils ouvrent, où ils font leur appel d'offres pour récupérer des capitaux, en fait, ils vont attirer beaucoup de gens qui ne sont pas des militants coopératifs et qui, eux, vont faire en sorte de transformer l'entreprise de départ en une entreprise capitalistique classique où il s'agit de faire de l'argent à proportion de l'argent qu'on y place.
C'est de l'entrisme capitaliste.
Exactement, exactement. Alors, je vous lis le passage là-dessus, parce que là, évidemment, du coup, ça a des conséquences beaucoup plus directes, hein, c'est-à-dire que c'est l'échec, en fait, en l'occurrence.
Et ça va mettre fin à toute l'entreprise coopérative de
Non, c'est-à-dire qu'après, ils vont... En fait,
se séparent avec les producteurs.
Non, ils ne se séparent pas, ils restent dedans. Et ils vont attendre, en fait, ils vont attendre leur heure. Ils vont attendre leur heure, c'est-à-dire qu'ils vont défendre leur point de vue, ils vont continuer à vendre, ils vont développer ça ailleurs dans la vente de gros, et ils restent coopérateurs en défendant leur point de vue. Alors, concrètement, ça veut dire qu'ils ne réussissent pas leur projet de départ, ils se font d'une certaine manière voler ou dérober leur projet de départ, mais ils restent dedans parce qu'ils y croient, hein, et qu'effectivement ils attendent effectivement le moment. Bon, là en l'occurrence le livre ne donne pas la fin de l'histoire là-dessus. Mais alors sur le passage là, ce qu'il faut bien voir, c'est que le succès de la coopérative de consommation, en fait, a eu un retentissement assez énorme, hein, c'est-à-dire que, alors, y compris international, c'est-à-dire c'est pas les seuls, hein. En France, on a évidemment Fournier, on a le projet de Familistère, Fourier, le Familistère. Il y a Robert Owen qui est encore plus ancien, hein, en Angleterre, qui avait déjà mis des expérimentations en place comme ça. Mais en fait, la croissance en fait de la coopérative de consommation a un écho considérable, hein, dans le monde ouvrier et un peu partout en Europe.
Et dans le monde socialiste, au sens un peu original du terme, c'est-à-dire des gens qui veulent changer la société. Marcel Mauss, l'anthropologue français, était une cheville ouvrière du mouvement coopératif en France.
Alors, il y a une autre école en France qui est autour de Charles Gide à Nîmes, hein, qui est un des théoriciens effectivement de l'économie coopérative. Alors c'est tout sauf un révolutionnaire, hein. C'est pas un révolutionnaire, il est pas anticapitaliste, mais par contre effectivement, alors il est pas dans le cadre de, il y a aucune dimension de classe, mais si vous voulez, là la dimension prolétarienne, je dirais, de départ, hein, n'est pas revendiquée en tant que telle, hein, par les sociétaires, hein. Elle n'est pas revendiquée en tant que telle, à la limite, je veux dire, la coopérative, du point de vue que les principes sont acceptés, elle est ouverte finalement à n'importe qui. N'importe qui acceptant, en fait, dans une logique, effectivement, où on n'est pas dans un enrichissement personnel maximal, mais on est dans une logique où on investit pour dynamiser une activité en tant que telle, je dirais, qui appartient et qui est perçue comme d'intérêt collectif aux différents sociétaires. À partir de ce moment-là, elle est ouverte à tous. Il n'y a pas de revendication prolétarienne particulière. En revanche, c'est quelque chose qui fait disjoncter, je trouve, le fonctionnement capitalistique dominant, habituel, quoi.
Mais qui, du fait de son ouverture, peut aussi se faire
niquer sur ça. Hein. Alors, c'est ce qu'il raconte un peu plus tard. Donc là, on est 10 ans après, donc 1854-1855. Il s'agit d'investir dans des filatures, hein, donc il y a d'abord une campagne de propagande et d'information qui est faite, hein, pour informer en fait des objectifs du projet, et donc une ouverture du capital, hein, étant dire avec des appels d'offres. Et alors, nous raconte l'auteur, Olioeki, je ne sais pas trop comment il faut prononcer, Georges Jacob Olioeki, dans la traduction de Marie Moret. Tous ces motifs donc, qui sont diffusés à l'époque contribuaient à rendre les amis du progrès industriel anxieux du succès des fabriques de Rochdale, montées d'après le nouveau plan d'association du travail au bénéfice de la production. Cet espoir si légitime de voir enfin appliquer la justice et l'équité dans le monde de l'industrie sembla réalisé pour un temps, puis se perdit malheureusement, malgré les vigoureux efforts des coopérateurs sincères et convaincus. La liste de souscriptions pour l'installation des nouvelles fabriques avait été ouverte à toute la ville. Les actions furent prises par nombre de gens qui ne connaissaient absolument rien en coopération, par un certain nombre d'autres qui s'en souciaient peu, enfin par beaucoup d'ennemis actifs du principe. Conséquence, le droit du travailleur à participer aux bénéfices ne put être maintenu. Le London Spectator, dans son numéro du 16 avril 1864, soutient cette assertion. À Rochdale, le système d'admission des travailleurs à la participation aux bénéfices a été abandonné après épreuve. Sauf que, nous continue le texte, abandonné après épreuve suggère la pensée que le principe a été appliqué sans succès. Or, la vérité, c'est que le principe fut mis à mort avant de pouvoir être appliqué. Et nos vaillants amis, nous dit le texte, les pionniers n'ont été pour rien dans cet abandon de leur principe. Ils ont lutté contre, mais ils n'ont pu l'empêcher. Leur volonté à eux est inscrite dans l'almanach de la société pour 1860. Il y est dit, je cite, donc là c'est les pionniers de Rochdale qui parlent, qui écrivent même, « L'objet de la société coopérative manufacturière de Rochdale est d'assurer à chacun des membres les bénéfices provenant de l'emploi de son propre capital et de son propre travail dans les fabriques de coton et de laine, et ainsi d'améliorer la condition domestique et sociale de tous les membres. Les bénéfices annuels provenant des opérations de la société, après paiement des intérêts du capital, au taux de 5 livres pour 100 par an, seront répartis entre les sociétaires à raison d'un temps pour cent égal pour le capital souscrit et pour le travail exécuté. » Alors, je n'ai pas ici le détail, si tu veux, de la manière dont il pense la répartition des deux. L'idée, c'est d'arriver à une manière de rémunérer le travail et le capital en même temps. C'est-à-dire qu'on a effectivement des salariés actionnaires, je dirais, actionnaires et coopérateurs. Et la répartition doit se faire à proportion du travail effectué et du capital investi. Voilà. Alors, je sais pas, j'ai pas le détail du dispositif. Bon, il se trouve qu'en l'occurrence, on nous raconte donc après. Il croit donc toujours dans le manifeste de départ. Donc les pionniers croient que tous ceux qui ont contribué à la création de la richesse doivent avoir peur à la distribution, à ce principe, la société a été infidèle. Alors là, c'est en 1864, les pionniers fondateurs constatent qu'ils se sont fait voler le projet. Alors comment ça s'est passé? Le récit nous le raconte. C'est en 1860 que l'ennemi se leva pour la première fois. Une grande réunion eut lieu en septembre pour discuter cette question, oui ou non, donnera-t-on une prime au travail? Est-ce qu'effectivement, celui qui participe activement à la production sera rémunéré à hauteur du travail accompli et non pas simplement sur décision des détenteurs de capitaux qui n'y travaillent pas. Alors sans doute les termes mêmes de la question étaient le commencement de la lutte, nous dit le texte. À la réunion, nombre d'orateurs prétendirent que les travailleurs recevaient déjà le prix de leur travail et qu'on ne leur devait pas autre chose. Le même argument avait servi pendant des années à combattre l'admission des acheteurs à la répartition des bénéfices dans les magasins de vente. On disait « l'acheteur a des produits pour son argent, que lui doit-on de plus ?» Puisqu'il a fallu 2 générations d'hommes pour discuter et résoudre cette question, de façon à reconnaître que les acheteurs contribuent à grossir les bénéfices des magasins et que par conséquent, ils ont droit à une part de ces bénéfices, comment admettre qu'il ne faudra pas le même temps au moins pour résoudre le problème bien plus complexe de l'équitable répartition des bénéfices de la production entre tous ceux qui les créent? Et au grand meeting de 1860, les vieux pionniers, donc là on est près de 20 ans après l'ouverture du magasin, luttèrent de toutes leurs forces pour le maintien du principe qui confère aux travailleurs la qualité d'associé. C'est le devoir des pionniers, dit l'un d'eux, de baser l'industrie sur le même principe que les magasins de vente. C'est leur devoir de faire que le travail ait ce qui lui appartient. 571 votes se prononcèrent contre l'association du travail au bénéfice et 270 furent pour le maintien du principe.
Ah, ils sont quand même bien battus.
Les statuts de la société exigeant une majorité des 3/4 pour une modification aux règles sociales, le principe du droit du travail fut maintenu.
Ah, quand même.
Dit-on. Mais 2 ans plus tard, l'ennemi ayant consolidé ses forces revint à la charge et gagna la victoire, du moins en ce qui concerne Rochdale. Alors c'est évidemment, comme tu le disais, c'est une des limites, je dirais, de la démocratie coopérative, c'est qu'effectivement, dans la mesure où elle est en principe ouverte à tous, effectivement, t'as un espèce de marché aux coopérateurs non régulé, pour le coup, qui t'expose à ce genre de déconvenue-là. Après, il me semble qu'une des particularités de ce mouvement-là, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire au départ, c'est son absence totale de sectarisme, je dirais. Et c'est, je dirais, la prise au sérieux des contraintes économiques, en tout cas de certaines contraintes économiques, et enfin, je dirais, un attachement à une démocratie à la fois formelle et réelle. Ce qui n'est pas toujours si fréquent, en fait,
ça, non.
Dans l'histoire du mouvement ouvrier, notamment révolutionnaire. Et là, il me semble que les trois se trouvent en quelque sorte un peu réunis. Alors, évidemment, le coup, il est important. Hein. C'est qu'évidemment, tu abandonnes toute perspective révolutionnaire, tu abandonnes même les outils d'analyse, une grille d'analyse en lieu de classe. D'une certaine manière, tu es un peu dans le déni des rapports de force. Hein, évidemment, qui sont ceux de la lutte des classes et de l'exploitation capitaliste. En même temps, c'est vrai que bon, moi, je suis impressionné, si tu veux, par
par la réussite ou l'ampleur
du mouvement. Par la réussite et je dirais par le pari. Le pari qu'il y a derrière.
Il y a un petit côté judo, c'est-à-dire qu'on essaie de retourner les forces du capitalisme contre lui-même.
C'est pas contre lui-même, oui. Encore une fois. C'était pas un mouvement anticapitaliste.
Oui, mais tu vois ce que je veux dire.
C'est une manière de. Oui, oui, il y a cette idée de vider en quelque sorte
le capitalisme d'une certaine.
De l'exploitation.
De
l'exploitation du travail.
Et c'est pour ça que je pense que quand même l'exploitation et du travail est une des pièces centrales du capitalisme. Et si tu la dynamites, je pense que tu peux avoir malgré tout. Tu vois, quelqu'un comme Proudhon, il pense qu'on peut organiser un marché.
Bien sûr.
Un marché d'échange des biens et services.
C'est pour ça, si tu veux, qu'évidemment.
Mais c'est un marché. Et après, tu vois, ça dépend comment tu définis le capitalisme. Est-ce que tu définis par le marché ou est-ce que tu le définis par l'exploitation du travail?
Exactement. Et c'est vrai que là, je trouve qu'il y a. En tout cas, ça pose des questions qui sont intéressantes. Et alors, bon, évidemment, tout ça, c'est des gens qui sont classés du côté des socialistes utopiques, chez les marxistes orthodoxes, hein, évidemment.
Bien sûr, sauf que c'est pas du tout utopique.
Mais bon. Alors, non, c'est pas utopique, c'est très concret. Hein. Alors, par contre, effectivement, c'est du réformisme, ok, hein, c'est du réformisme. Le degré de radicalité, ça, effectivement, je laisse ça effectivement à l'appréciation de chacun. Mais il y a quelque chose d'assez effectivement intéressant là-dessus. Alors après, ce qu'il faut voir, donc là, le document là qu'on présente aujourd'hui. Donc c'est vraiment le livre séminal, quoi, hein. C'est vraiment l'expérience qui a eu le plus de retentissement. C'est pas la première exactement chronologiquement. Alors après, moi je suis pas un spécialiste de l'histoire de la coopération, hein, mais Robert Owen c'est déjà avant. On observe des premières coopératives dans le Jura, y compris en France, où Robert Owen va aller se former plus tôt encore. Et puis il y en aura plein d'autres, hein, évidemment. Et puis il y a les mouvements des socialistes utopiques en France qu'on évoquait tout à l'heure.
Les tentatives aux États-Unis.
Les tentatives aux États-Unis, bien entendu.
Tentative en Amérique du Sud, tous les.
Et en France, c'est vrai que c'est intéressant de je trouve, alors d'un point de vue libertaire, celui qu'on défend sur cette antenne, je trouve qu'il y a matière à réfléchir quand même, parce qu'on est sur une espèce de respect pour le coup de la liberté individuelle, que ce soit celle du producteur ou du consommateur. On se donne les moyens en même temps d'avoir un système qui fonctionne du point de vue économique. Alors, dans le cadre du capitalisme de marché, on va dire, mais d'un capitalisme de marché qui serait en quelque sorte jugulé du point de vue de l'exploitation du travail. Il y a évidemment derrière une entreprise, alors c'est peut-être là où c'est à la fois beau et en même temps peut-être un peu utopiste, c'est en fait ça suppose une implication des sociétaires très importante. Ce que dit le texte, d'ailleurs. Il y a aussi, effectivement, le récit des soirées, la fameuse objection d'Oscar Wilde, principale objection au socialisme, trop de réunions. Le fonctionnement d'une coopérative nécessite, effectivement, une implication de prendre c'est raconté tel quel. Hein.
Mais ça, c'est pas les premiers ni les derniers à se
heurter à cet obstacle. Les premiers ni les derniers, mais tu as derrière aussi l'idée de
c'est pas fréquent, quoi.
Un point que je trouve qui est assez commun et assez partagé dans la tradition libertaire, c'est aussi cette espèce d'idéal un peu de perfectionnisme, je dirais. À la fois de perfectionnisme intellectuel, de la dimension pédagogique, je dirais, du mouvement. Il s'agit aussi de former des gens. Il y a une dimension éducative, hein, encore une fois, je l'ai dit. Alors après, il y a d'autres.
Et puis, comment changer les choses sans prendre le pouvoir? Ce qui est quand exactement. Même un truc très très important chez dans la tradition libertaire.
Exactement, tu as tout à fait raison. Alors après, il y a d'autres champs d'expérimentation. Avec donc j'ai parlé de la coopérative qui fonctionne, elle, pour le coup, très bien sur la vente en gros. Ils vont aussi faire l'expérience sur des coopératives de logement. Hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont réussi à dégager suffisamment de bénéfices, ils vont acheter des terrains, ils vont construire des maisons et ils vont proposer en fait des habitations. Alors au départ, il y en a une quarantaine qui vont être effectivement attribuées sur le même principe coopératif. Tout ça pour dire effectivement qu'il y a, là une tradition que pour ma part je trouve très riche. Alors je ne dis pas que je suis d'accord avec tout, je ne dis pas que les principes ne soulèvent pas de problèmes, mais pour des gens qui s'intéressent à l'histoire des idées et des pratiques libertaires, même si elles ne sont pas revendiquées en tant que telles, je trouve qu'il y a la matière
à réfléchir.
Donc je recommande.
Voilà, donc c'était l'histoire des équitables pionniers de Rochdale aux éditions du Commun. Voilà, c'est un petit bouquin d'une centaine de pages.
Très agréable.
Un document d'époque, très agréable à lire. Jean-Mathias, on a eu des passages. Et donc c'était Jeudi Noir qui s'achève. Voilà, on va laisser la place à Entre Chien et Loup, ils sont arrivés. Et avant ça, José va vous passer un des morceaux qu'il a réussi à dénicher, je ne sais trop où ni comment. Voilà.